Par actualité. Mercredi 22 mars, bonjour à toutes et à tous. En titre aujourd'hui au Paractualité, la semaine québécoise de la déficience intellectuelle, on en parle encore parce que, et vous savez qu'en ce moment, il y a eu hier, je ne sais pas pourquoi je suis mêlée complètement ce 22, c'est peut-être parce que j'ai ouvert l'émission, pas de façon ordinaire, en tout cas, peu importe. Hier, le gouvernement a présenté son plan d'action. Voilà, enfin, elle l'a dit. Plan d'action gouvernemental, donc, pour l'autisme. Il y a des réactions aujourd'hui. Nous sommes oubliés. Ont crié hier les parents d'enfants trisomiques ou les organismes qui s'occupent de la trisomie 21, dont c'était la journée mondiale hier. Mélanie Bédard, je vais m'entretenir avec elle au sujet d'un atelier interactif sur les neurosciences éducationnelles présenté au 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage. Il sera aussi question de surdité de Marie-Josée Taillefer et de sa fille Rosalie qui livrent de vraiment poignants témoignages en ce moment. Il sera question aussi de petit Patch Adams pour le projet Félix. Oui, je vais m'entretenir avec Martine Grenier, qui est agente de développement et de communication du RAM au sujet du service d'aide bénévole dont a toujours besoin le RAM. Et puis, il sera question d'un sommet à Saint-Stéphane, au Nouveau-Brunswick, et du venin d'araignée contre l'AVC. Alors, celle qui vous bafouille ça dans les oreilles depuis maintenant 2 minutes, c'est Clotilde Seille. Vous êtes sur Canal M. Accueil prudent pour le plan d'action gouvernemental. Le plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme, écrit Ariane Lacourcière dans la presse ce matin et présenté hier matin par le gouvernement, a reçu un accueil mitigé. Si certaines associations de parents d'enfants autistes saluent la mesure, d'autres intervenants craignent que les sommes annoncées ne soient pas suffisantes. Voilà ce que nous attendions, des actions concrètes, destinées aux familles, a déclaré la Fédération québécoise de l'autisme dans un communiqué. Père d'un enfant autiste de 4 ans, Jérémy Lagacé de la coalition Autisme Québec dit quant à lui être rempli d'espoir tout en restant prudent. C'est un bon début, mais il faudra voir plus loin, dit-il. J'essaie de rester positive, mais j'espère que ce n'est pas un plaster sur une facture ou sur une fracture même. Les sommes annoncées représentent quand même juste environ 375 $ par personne autiste, a dit Catherine Chevrette, présidente de la Fondation Justine et Florence. L'écrivaine Kim Thuy, elle-même mère d'un enfant autiste et qui collabore à un ouvrage sur l'autisme écrit par Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, qui sera lancé d'ailleurs la semaine prochaine, croit quant à elle que plusieurs mesures positives sont incluses dans le plan d'action, dont l'augmentation du soutien aux adultes. On parle aussi de proposer une alternative à l'ICI, d'élargir nos connaissances sur le sujet et d'assurer le transfert de connaissances aux parents, ce qui est vraiment bien, affirme-t-elle. Et puis, oublié par le gouvernement Couillard, les parents d'enfants trisomiques digèrent mal que le Québec ait choisi la journée mondiale de la trisomie 21 pour parler d'autisme. Comprenons-nous bien, on n'a rien contre le fait qu'il y ait un plan d'action sur l'autisme, bien au contraire. On s'en réjouit, sauf qu'on trouve ça un peu indélicat que le gouvernement ait choisi la journée mondiale de la trisomie 21 pour faire son annonce. Sans dire un mot sur cette journée, s'indigne le président de la Société québécoise de la trisomie 21. Sylvain Fortin, en entrevue au Soleil. Une situation d'autant plus difficile à avaler pour les membres du regroupement que le gouvernement se montre sourd et aveugle à leurs revendications depuis plusieurs années, ajoute M. Fortin, dont le fils de 19 ans est trisomique. Depuis ce matin, mardi, nos bénévoles sont inondés d'appels de familles qui se sentent insultées de l'attitude du gouvernement, dit-il. Ce que réclame la Société québécoise de la trisomie 21, entre autres, c'est que le gouvernement s'intéresse à la réalité du vieillissement des personnes trisomiques, dont l'espérance de vie a aussi augmenté. Selon M. Fortin, la plus grande inquiétude pour les parents d'un enfant trisomique, c'est de vieillir en ne sachant pas qui s'occupera de leur enfant quand ils ne seront plus là. M. Fortin a en mémoire 2 drames qui se sont produits en 2014, en 2004 et en 2010, pardon, à Montréal et à Saint-Jude. Dans les 2 cas, une personne trisomique était morte de faim et de soif après le décès du proche qui en prenait soin. C'est nous qui avons recueilli leur corps et organisé des funérailles. Si on ne l'avait pas fait, ils auraient fait partie de la liste des corps non réclamés, a souligné M. Fortin. Nous vous en parlons depuis le début de la semaine. Canal M est partenaire dans ce congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage, le 42e du nom, qui a commencé aujourd'hui même et qui se déroule jusqu'à vendredi à Montréal, à l'hôtel Westin. Alors, nous avons parlé à plusieurs intervenants, à Égide Royer notamment. Nous avons parlé aussi à Mme Stanquet, qui est la présidente de ce congrès. Aujourd'hui, je m'adresse à Mélanie Bédard. Madame Bédard est étudiante au doctorat en adaptation scolaire et vous allez présenter, Madame Bédard, bonjour d'abord.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez présenter un atelier interactif. Bon, sur un sujet, je veux dire, au niveau du nom, c'est un petit peu complexe, mais je sens que vous allez éclairer tout ça. Sur les neurosciences éducationnelles, les pratiques probantes auprès des personnes qui présentent un trouble d'apprentissage, ce sera présenté le 24 mars à 8h30. Alors, quelles sont les idées clés de cette conférence? Qu'est-ce qu'on appelle les neurosciences éducationnelles et pratiques?
Oui, bien, en fait, c'est ça. Le thème de la conférence, c'est comment on peut utiliser les connaissances issues des neurosciences en éducation. Mm-hmm. C'est vraiment ce thème-là qu'on aborde. Mm-hmm. De manière générale, dans la population, il y a un intérêt marqué pour toutes ces nouvelles connaissances-là qui sont produites à propos du fonctionnement du cerveau. Les gens sont vraiment intéressés par ces connaissances-là et les intervenants scolaires, notamment les enseignants, les orthopédagogues, mm-hmm. n'échappent pas à ça.
Mais qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle neurosciences éducatives? Est-ce que je suis totalement inculte ou honnêtement, j'ai du mal à mettre une image derrière ces mots-là?
Bien, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est intéressé par les connaissances qui sont produites sur le fonctionnement du cerveau. Puis les enseignants, les orthopédagogues sont très tentés. Okay. Ils ont un intérêt grandissant à utiliser ces données-là à propos du cerveau pour essayer d'améliorer leurs pratiques et les interventions qu'ils vont mettre en place auprès des élèves.
D'accord.
Bien, notamment le sujet de notre conférence, les élèves qui présentent un trouble d'apprentissage.
Autrement dit, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour que ces enfants-là ou ces adultes-là vivent avec des troubles d'apprentissage. C'est bien ça?
C'est ça.
Ouais.
Donc, toutes ces connaissances-là mm-hmm. qui vont nous dire certaines choses qui se passent dans le cerveau des apprenants, certaines choses qui se passent dans le cerveau des troubles d'apprentissage. Il y a beaucoup de recherches depuis très, très longtemps qui sont faites en neurosciences. Puis là, on se demande à quel point on peut utiliser ça mm-hmm. en éducation. Donc, en ce moment, cet intérêt-là se manifeste oui. par des tentatives de modification de ce qu'on fait auprès des élèves
okay.
en recourant aux connaissances neuroscientifiques sur la manière dont le cerveau fonctionne quand on lit, par exemple, quand
d'accord.
on écrit, par exemple.
OK.
Et donc, malheureusement, à l'heure où on se parle, il y a plusieurs de ces tentatives-là qui mènent à des pratiques auprès des élèves qui ne sont pas tout à fait rigoureuses, qui n'ont pas été parfaitement démontrées valides scientifiquement et tout ça.
Okay.
Donc, c'est un peu à ça qu'on s'attaque dans cette présentation-là. Puis quand je dis que ce ne sont pas des pratiques qui sont rigoureuses, que les intervenants scolaires mettent en place parfois, ce n'est pas par mauvaise volonté, là, ça, je tiens à le souligner. On essaie vraiment de toujours mettre en place les meilleures pratiques auprès des élèves.
Je comprends.
Mais il y a certaines conceptions erronées, par exemple, qui vont teinter la manière dont on va intégrer des données neuroscientifiques dans nos interventions. Mmh. Donc, on va aborder ça avec les participants de l'atelier vendredi, ce que certains appellent les neuromythes. La conception erronée qu'on utilise seulement 10% de notre cerveau, par exemple.
Oui.
Ça peut faire en sorte qu'on va interpréter des données neuroscientifiques pour nos interventions auprès des élèves de manière...
Parce que c'est pas vrai, ça?
Non, c'est pas vrai. On va mobiliser l'ensemble de notre cerveau. Puis on va aussi aborder avec les participants d'où ça vient, ces conceptions erronées-là. Donc, mm-hmm. ça vient pas de nulle part, cette idée qu'on utilise mm-hmm. seulement 10% de notre cerveau. C'est peut-être nos connaissances en lien avec les techniques d'imagerie cérébrale qui vont nous faire croire ça. Donc, on va parler de ça avec les participants, avec les intervenants scolaires qui vont assister à notre présentation. puis on va leur faire, on va leur donner des connaissances finalement sur le fonctionnement de l'imagerie cérébrale pour bien interpréter les fameuses images qu'on voit toujours où il y a une petite zone rouge là qui a l'air très allumée quand on est en train de lire des mots, par exemple. Mais ça, c'est de la façon dont les données sont rendues dans les publications scientifiques issues, avec des mesures issues des neurosciences qui nous font penser ça, alors que c'est pas nécessairement le cas.
C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est une vulgarisation comme ça qu'on apporte au monde et qui fait qu'on a l'impression qu'on a tout compris de ce qui se passe, nous, dans le cerveau, et on n'a rien compris du tout, quoi.
C'est exactement. Ça fait en sorte qu'on va utiliser les résultats des recherches avec des données neuroscientifiques d'une façon un peu erronée. Donc, nous, on croit qu'en discutant de ça ouvertement avec les intervenants scolaires, ils vont être plus à même d'être critiques, finalement, par rapport à des résultats de recherche, à des connaissances neuroscientifiques ou même à des propositions d'intervention qu'on leur fait fondées sur des connaissances neuroscientifiques.
Alors, ça va changer quoi concrètement, par exemple, à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou autre auprès d'enfants? Ça vous fait sourire comme question?
Mais oui, parce que en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que on est très attiré par ces connaissances-là, on veut les intégrer, on veut dire que nos interventions font appel à ces connaissances-là, alors qu'un des constats de notre présentation, on va parler, par exemple, beaucoup de dyslexie, dysorthographie, parce qu'on a un tas de données neuroscientifiques sur ces sujets-là. Et un de nos constats, c'est que, effectivement, en ce moment, les connaissances neuroscientifiques telles qu'elles sont produites en majorité vont avoir très, très peu d'influence réelle sur les pratiques. Que nos meilleures pratiques, les plus rigoureuses, celles qui ont été démontrées les plus efficaces, proviennent des recherches qu'on fait depuis très longtemps en sciences de l'éducation, dans des domaines connexes, comme en sciences cognitives et tout ça. Donc, les données neuroscientifiques, on veut aussi porter un message enthousiaste par rapport à ça. On veut encourager les gens à s'y intéresser puis à essayer de les intégrer dans leurs pratiques. Mais en ce moment, les données neuroscientifiques ne vont pas nous informer tant que ça sur quelles sont les interventions les plus efficaces auprès des dyslexiques, dysorthographiques, par exemple.
Voilà. Donc, autrement dit, faites confiance à ce que vous connaissez déjà, parce que ce que je comprends là, de ce que vous êtes en train de nous dire, Madame Bédard, c'est qu'en ce qui concerne les neurosciences éducationnelles, on patauge encore un peu, et le résultat de tout cela, c'est que finalement, l'éducation que l'on donne à ces jeunes-là n'est peut-être pas la bonne chose à faire en vertu des résultats que nous avons. C'est bien ça?
En fait, c'est ça. Je pense que le message à retenir, c'est surtout que on peut pas révolutionner nos pratiques, finalement, en intervention auprès des élèves qui ont un trouble d'apprentissage. D'accord. Juste en recourant à des connaissances neuroscientifiques. Puis l'idée, c'est de ne pas faire table rase.
Exactement. D'accord. OK. Oui. Eh bien, écoutez, Madame Bédard, tout ça est très éloquent et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Mélanie Bédard, Madame Bédard, vous allez donc donner votre conférence le 24 mars prochain. Ça, c'est après-demain, si je ne m'abuse, à 8h30 du matin. C'est à l'hôtel Westin et c'est dans le cadre du 42e congrès de l'Institut des troubles d'apprentissage auquel collabore Canalem, puisque nous sommes partenaires et nous serons exposants à l'hôtel Westin. Voilà.
Parfait, merci beaucoup.
Ben, merci à vous, Madame Bédard. Au revoir.
Au revoir.
Alors, après cette entrevue, allons-y avec les informations régionales et Marie-Josée Taillefer et sa fille Rosalie qui livrent un vibrant témoignage. L'Association des devenus sourds et des malentendants du Québec, l'ADSMQ, secteur des MRC de l'Assomption et des Moulins, avait donné rendez-vous à la population au centre à nous le vendredi 17 mars pour assister à la conférence « Relever le défi » de Marie-Josée Taillefer et de sa fille Rosalie. Un témoignage bien senti par la foule qui s'est déplacée en grand nombre pour l'événement présenté dans le cadre de la tournée « Quel âge ont vos oreilles ?». Il faut savoir que la majorité de la population est peu informée sur les indicateurs de la perte auditive et des conséquences néfastes que cela entraîne sur la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Dans la Naudière, une très forte majorité de personnes de 65 ans et plus, soit un peu plus de 61 000 individus vivent dans un ménage privé, que ce soit en couple, seul ou avec d'autres personnes apparentées ou non. Selon les statistiques, ce handicap invisible touche une personne sur trois âgée de 65 ans et plus et une personne sur deux pour les 75 ans et plus. L'ADSMQ s'est questionnée sur la manière de rejoindre ces personnes. De ce double état de fait, l'idée d'un projet intergénérationnel est née. Ce projet expérimental, « Quel âge ont vos oreilles ?», a pour but de sensibiliser l'entourage de la personne aînée, et particulièrement leurs petits-enfants de 12 ans et plus. Marie-Josée Taillefer et sa fille Rosalie ont donc pris la parole devant une foule de 75 personnes. Fort touchante, leur belle histoire de résilience a aussi permis aux personnes présentes de bien comprendre les étapes qu'a franchies cette famille bien connue de tous. C'est la première fois que nous avons la chance de partager notre histoire avec des gens, mais avec les nombreuses demandes que nous avons reçues, ce n'est pas la dernière, s'entendent-elles? Et j'imagine que nous en reparlerons, nous aurons cette occasion-là, sur les ondes de Canal M. Et puis, dans l'hebdo des gens d'action, dans la Naudière, on nous parle des petits Patch Adams pour le projet Félix. Vous connaissez Patch Adams, écrit Véronique Talbot de la revue. Elle dit cet excentrique médecin américain personnifié par Robin Williams dans un film de 98 qui a fait de l'humour la pierre angulaire de son approche. Eh bien, dans une moindre proportion, mais avec autant de couleur et d'humanité, c'est exactement ce qu'ont fait deux finissants de l'École nationale de l'humour aux côtés des jeunes du projet Félix. Ils ont abaissé les barrières et enrichi leur monde par l'humour. C'est le président de l'organisme, Jean-Charles Beaulieu, qui a eu cette idée de génie grâce à une subvention d'emploi d'été Canada. Il a fait le pari d'engager deux étudiants de l'École nationale de l'humour afin d'agir en tant qu'éducateurs auprès des jeunes à l'été 2016. Leur défi était d'abord d'intervenir auprès de nos jeunes présentant des limitations fonctionnelles d'origine diverse. On parle entre autres de déficience intellectuelle, ou encore de troubles envahissants du développement ou de la communication. Mais on leur a également demandé un autre mandat, celui de créer un spectacle basé sur leur expérience auprès des jeunes. Un spectacle qui a été présenté une première fois à l'école Dérive et qui a fait salle pleine et standing ovation. Ensuite, ça a été au collège Esther Blondin. Et là, le 1er avril, ils vont revenir à l'école des Dérives. Ultimement, nous aimerions présenter le spectacle dans toutes les écoles secondaires du territoire et même peut-être partout au Québec. Nous croyons en notre projet et maintenant nous voulons contaminer le plus de gens possible et leur montrer que ça marche, ajoute M. Beaulieu. On a toujours besoin d'aide, on a toujours besoin de ressources humaines. C'est vrai ici, chez Vues et Voix, où on a toujours besoin de voix, de lecteurs, de moniteurs, de vérificateurs et même éventuellement de bénévoles ici à la radio de Canal M. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de ressources bénévoles. J'ai au téléphone, si tout va bien, Martine Grenier, agente de développement et de communication au RAM. Bonjour Martine.
Bonjour, ça va bien?
Oui, et vous-même?
Oui.
Bon, alors, nous allons parler aujourd'hui justement de ce service d'aide bénévole du RAM. Quels sont les services qui sont offerts et quels sont vos besoins?
En fait, les services, c'est sûr. Bon, premièrement, nous desservons une clientèle vivant avec une limitation visuelle. Nous desservons le territoire, en fait, Montréal métropolitain, mm-hmm. ce qui veut dire Laval, Montréal et Montérégie. En fait, les besoins pour ces gens-là, pour pouvoir bénéficier des services, il faut premièrement que les gens soient membres ici à notre organisme et par la suite, ben, ils ont droit de bénéficier des services de bénévoles. Il s'agit de, quand les gens ont besoin d'être accompagnés, c'est vraiment de l'accompagnement. Ça peut être pour des rendez-vous médicaux, différentes course.
Oui, c'est ça. Par exemple, pour un non-voyant qui a besoin de faire son épicerie, est-ce qu'on peut faire appel à vous?
Oui, c'est ça. C'est différentes courses. L'épicerie, magasiner des vêtements.
Bien sûr.
Aller à la banque, à la pharmacie, tout ce qui est course. Quand on vit avec une limitation visuelle, ben, on a besoin, comme tout
bien
le
sûr.
Monde, de faire notre épicerie, etc., etc.
Est-ce que ça peut être aussi pour des sorties un peu plus ludiques, comme le cinéma ou le théâtre? Ou...
Oui, ça peut être ça aussi. Mm-hmm. Quelqu'un qui a besoin, qui aimerait aller au cinéma ou aller visiter le jardin botanique.
Oui.
Des visites au musée aussi.
Ben oui, parce qu'on sait que ça se fait, hein, avec les non-voyants, c'est ça? Donc là, j'imagine, c'est vraiment fantastique. Belgique, d'ailleurs.
C'est ça. Puis,
oui, allez-y. Allez-y, Mme Grenier.
Également, bon, il y a l'accompagnement, mais il y a également aussi l'aide au domicile de la personne.
Ah, OK.
Mais au niveau de l'aide au domicile, c'est pour la lecture des papiers personnels, le courrier, compléter des formulaires, soit formulaire papier ou
oui.
De plus en plus formulaire Internet. Là, mm-hmm. De plus en plus, c'est comme ça.
Mais c'est, oui, c'est essentiel.
Au niveau des papiers, ou faire le... Ouais. Le tri de papiers, bon, des fois les gens accumulent les papiers, ne savent plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon.
Les impôts.
On peut les aider à faire le tri dans ça, là.
Ben oui, non, mais c'est vraiment essentiel, parce que c'est vrai que nous, ici, on pense souvent lecture, mais on pense souvent à lecture fantaisiste, entre guillemets, parce qu'on ne lit pas que des romans et des polars ici, loin de là, ni dans les autres organismes. Mais donc là, ça prend vraiment des gens pour... C'est ça, je comprends bien.
C'est plus spécifique au niveau des papiers personnels, parce qu'au niveau de lire un livre, il y a différents médias.
C'est ça, bien sûr.
Tout ça, là.
Bien
mais
sûr.
C'est vraiment... on n'échappe pas au courrier, papier, ça, on n'y échappe pas.
Est-ce que les bénévoles se précipitent à la porte?
Il y a des périodes que oui et des périodes que non. Là, c'est sûr que bon, on est dans une période qu'on a besoin de recruter des bénévoles. Puis c'est sûr qu'on des délais parce que nous devons procéder à une vérification des antécédents criminels.
Bien sûr.
Donc, il faut attendre la réponse avant que les gens puissent commencer à faire du bénévolat. Puis ce qui est bien aussi parce que ça, les gens peuvent se sentir en confiance aussi.
Mais oui.
Vu qu'on a fait ces vérifications-là. Également, nous leur fournissons une formation sur les techniques de guide
oui.
Pour que les gens puissent accompagner adéquatement et sécuritairement les gens vivant avec une limitation visuelle. Et cette formation-là est donnée par les spécialistes en orientation mobilité de l'Institut Nazareth et Louis Braille. C'est des gens qui connaissent le métier.
D'accord. Alors, si on veut devenir bénévole au RAM, on fait quoi, Mme Grenier?
Vous me contactez au numéro 514-277-4401 au poste 115. Ça peut être aussi par courriel sab@raamm.org. Les gens peuvent aussi visiter notre site internet www.raamm.org.
D'accord, Martine Grenier. Écoutez, toutes ces informations vont se retrouver sur notre propre site, d'ailleurs. Alors, j'espère qu'elles vous permettront de faire venir un petit peu de main-d'œuvre et de voix, entre autres, et de jambes.
Oui, c'est ça, de bras. Et
c'est ça, exactement.
C'est ça, et de grand cœur.
D'accord, mais Martine Grenier, merci beaucoup d'avoir répondu.
Peut-être juste rajouter, oui? C'est sûr que le fonctionnement, nous, c'est sûr que les bénévoles, le temps n'est pas rémunéré,
mais
on demande aux gens de défrayer le déplacement du bénévole, ça va de soi. Là,
oui.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une voiture s'il y en a, tant mieux, mais c'est pas nécessaire parce que beaucoup de déplacements se font en transport en commun.
D'accord.
Ou même à pied, parce que les gens, c'est sûr, quand les gens font leurs courses, il y a des grosses chances que ce soit dans leur secteur.
Parfait. D'accord, Mme Grenier. Ben, merci beaucoup pour cette précision.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Bonne fin de journée. Merci.
Par actualité nationale, le vice-premier ministre Stephen Horstmann a été l'hôte le lundi 13 mars d'un sommet sur le plan du Nouveau-Brunswick pour les familles concernant le soutien offert aux personnes ayant un handicap. Le sommet qui s'est tenu à Saint-Stephen était le dernier de 7 sommets organisés dans l'ensemble de la province à l'appui du document cadre du plan du Nouveau-Brunswick pour les familles. Votre gouvernement est à l'écoute et obtient des résultats, nous disait-on, avec ce plan, le plan du Nouveau-Brunswick pour les familles, qui abordera les facteurs ayant la plus grande incidence sur notre société et notre bien-être, a déclaré M. Horstmann. En nous concentrant sur 7 domaines prioritaires, nous bâtirons un Nouveau-Brunswick plus fort et plus sain et ferons de notre province le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. Le sommet, qui a attiré des intervenants de toute la province, a permis d'aborder un certain nombre de sujets, notamment les services qui sont nécessaires pour aider les personnes ayant un handicap à avoir un accès égal aux possibilités d'emploi et comment rendre les programmes et les services plus accessibles. Même si bien des progrès ont été réalisés pour répondre aux besoins des personnes ayant un handicap au Nouveau-Brunswick, ces personnes doivent souvent composer avec des enjeux complexes nécessitant une approche coordonnée de la part des divers intervenants, a dit M. Horstmann. Il concentre l'action gouvernementale sur les 7 domaines prioritaires suivants: améliorer l'accès aux soins primaires et aux soins de courte durée, promouvoir le mieux-être, soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale, faciliter le vieillissement en santé et le soutien aux aînés, faire progresser l'égalité des femmes, réduire la pauvreté et fournir un soutien aux personnes ayant un handicap. Par actualité internationale, du venin d'araignée contre l'AVC. Une petite protéine provenant du venin d'une araignée protégerait le cerveau après un accident vasculaire cérébral, l'AVC. C'est ce qu'affirment des chercheurs australiens. C'est un texte d'Alain Labelle pour Radio-Canada et c'est écrit avec l'agence France Presse. Les travaux du professeur Glenn King et de ses collègues de l'Université du Queensland montrent que la protéine HI1 a bloqué le mécanisme principalement responsable des dommages cérébraux qui se produisent après un AVC. Ainsi, une simple dose de cette protéine administrée jusqu'à 8 heures après un AVC protège les tissus cérébraux et améliore fortement les performances neurologiques. Rappelons ce qu'est un AVC, cet accident vasculaire cérébral ischémique qui est la conséquence d'un manque d'oxygène dans une partie du cerveau. Il peut être associé à une thrombose ou à une embolie, c'est-à-dire la migration d'un caillot ou d'un débris de dépôt graisseux. Dans les deux cas, une partie du cerveau est moins irriguée. Il y a alors un déficit neurologique, c'est la paralysie, plus ou moins important, correspondant au territoire cérébral atteint. Selon l'équipe de recherche, c'est la première fois qu'on découvre un moyen de réduire les effets dévastateurs d'un tel accident sur le cerveau. Cette découverte va nous aider à fournir des perspectives plus favorables aux survivants d'un AVC en limitant les dommages cérébraux et les handicaps dévastateurs qu'ils provoquent. Rappelons que 315 000 Canadiens vivent avec les séquelles d'un AVC. Chaque année, environ 13 000 personnes succombent à cette maladie au pays. La protéine HI1 a fourni un certain degré de protection aux régions centrales du cerveau qui sont les plus affectées par la privation d'oxygène et qui sont généralement irrécupérables en raison de la destruction rapide des cellules résultant de l'AVC. L'un des aspects les plus prometteurs de cette protéine est le fait qu'elle offre des niveaux exceptionnels de protection pendant 8 heures après un AVC, ce qui représente une fenêtre remarquablement longue de traitement. Et puis pour finir, c'est un nouveau livre qui est sorti et qui, je l'espère, sera enregistré au sujet de l'alimentation et de l'autisme, enregistré bien sûr pour vous être disponible via le SQLA. Et dans ce livre, la nutritionniste Marie-France Lalancette base son approche sur 5 principes: prévenir les carences, adapter les décisions de l'enfant, développer une relation positive avec la nourriture, identifier les troubles et enfin soulager et soigner. Voilà pour les paractualités du jour. Bonne journée à tout le monde et à demain, 11h30.